Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite de passer un bon sabbat. Nous lisons dans Apocalypse 21, verset 4, ceci. Apocalypse 21 et le verset 4. Il essuiera toute larme, donc une vision de ce que sera l'avenir. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 6. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ensuite, le verset 7. Celui qui vaincra et celui qui seulement ceux qui vainquent, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça, c'est notre destinée, c'est notre but, c'est notre avenir, à condition que nous puissions vaincre. Le Christ lui-même, il a dit, j'ai vaincu le monde. Et quand nous regardons Apocalypse, les premiers chapitres d'Apocalypse, nous voyons les sept époques de l'Église, des consignes, des instructions, des corrections même que le Christ a donné à son Église, ou c'est différentes époques de son Église. Et c'est mentionné, c'est une condition sine qua non, c'est mentionner le fait de vaincre. On va juste regarder ça brièvement dans Apocalypse chapitre 2 et le verset 7. Le Christ le dit pour les sept églises. Il n'y a aucune exception. Apocalypse chapitre 2, verset 7. D'abord le verset 7, l'église d'Éphèse. Je lis au milieu du verset 7, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Ce sont donc des récompenses, ce sont ce que Dieu va donner à son Église quand ils arrivent à vaincre. Chapitre 2, verset 11, au milieu, « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir à seconde mort, il aura la vie éternelle, celui qui vaincra. » Chapitre 2, verset 17. Au milieu, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Chapitre 2 et le verset 26. On arrive à l'église de Thyatira. Chapitre 2 et le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations en tant qu'esprit et spirituel. Chapitre 3, verset 5, on arrive à Sardes. Celui qui vaincra se revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ce livre de vie sur lequel nos noms sont inscrits si nous sommes convertis. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. L'Église de Philadelphie, verset 12, chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Et pour finir, Laodicée, verset 21, parce que Laodicée peut aussi changer. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à plusieurs reprises, même à cinq reprises, cinq de ces prises, il est question aussi de la notion du repentir. Pas uniquement le fait de vaincre, mais aussi de se repentir, parce que ça passe aussi, le fait de vaincre, par le fait de se repentir. Et il y a cinq, je ne vais pas prendre le temps maintenant, mais il y a cinq reprises, cinq époques de l'Église de Dieu, il est question de repentir de la part du Christ. Que le Christ dit qu'il faut vaincre et que le Christ dit pour cinq de ces sept époques de l'Église qu'il faut se repentir. Il est donc intéressant de voir à quel point Dieu met l'accent sur le fait de vaincre. Et nous, il faut que nous soyons conscients. Il faut que nous soyons conscients qu'il faut vaincre. C'est une lutte. C'est difficile. C'est quelque chose qu'il faudrait faire tous les jours. Quelque chose d'une façon constante, chaque matin, dès le matin, pour toute la journée. Galates chapitre 5, verset 16, on parle d'une certaine façon. Galates chapitre 5, le verset 16. Nous lisons ceci. Galates chapitre 5, le verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est une lutte au-dedans de nous. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais la solution est là. La solution, c'est de marcher selon l'esprit et pas l'inverse. Verset 18, pardon. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Il est impossible de mener cette lutte tout seul parce que c'est une lutte spirituelle. On a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin des outils spirituels que Dieu met à notre disposition. Mais il est important pour nous donc de voir la réalité et de voir aussi, c'est ce que nous venons de voir dans l'Apocalypse, de voir aussi le besoin absolu de vaincre. Le besoin absolu de vaincre. On va rester dans Galates chapitre 6 cette fois-ci, Galates chapitre 6 et le verset 7. Et cette question de voir le besoin absolu de vaincre, on peut voir ça de deux façons différentes, deux aspects si vous voulez. Le premier aspect est énuméré ici dans Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est déjà vrai dans la nature. Verset 8, celui qui sème pour sa chair, puisqu'il y a cette lutte, c'est ce que nous venons de voir dans Galates chapitre 5, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On a un choix, on sème soit son la chair, soit son esprit, et on récolte en fonction de ce que nous sèmons. Le semeur dit ceci, la tradition semeur dit ceci, celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, récoltera ce que produira cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Le nouvel français courant dit ceci, si une personne sème en suivant ses propres penchants, la récolte qu'elle en aura sera la mort. Là, c'est vraiment assez spécifique, sera la mort. Mais si elle sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'elle en aura sera la vie éternelle. Nous voulons semer pour avoir la vie éternelle. Et ça passe par le fait aussi, bien sûr, de vaincre. La Bible dit bien que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement de cette corruption. C'est une nécessité absolue et ça passe par le fait de vaincre, par le fait de surmonter notre nature humaine qui nous tire vers le bas. Et il faut que nous soyons convaincus. Donc c'est le premier besoin absolu, si je puis dire. Il y a certainement d'autres, mais ce que j'ai voulu énumérer dans ce sermon, le premier besoin absolu, c'est le fait qu'on a besoin donc de semer selon l'esprit. Le deuxième, nous le trouvons dans Jean. Dans Jean chapitre 15 et le verset 8, où le Christ a dit, je ne vais pas forcément m'y rapporter, mais dans Jean chapitre 15, verset 8, où le Christ a dit à ses disciples, c'était le soir de la Pâque, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et que vous serez mes disciples, et nous voulons être les disciples du Christ. La Bible parle également des fruits dignes de la repentance. Donc, c'est aussi un besoin de produire des fruits et dans nos vies, et ça passe aussi par le fait de vaincre. Nous devons aussi être préoccupés par notre propre croissance. C'est très important d'être préoccupé en tant que chrétien par notre propre croissance. Là aussi, comme j'ai dit, ça passe par le fait de vaincre. Et le fait de s'examiner, c'est une clé vitale pour notre croissance. Ça passe par le fait de se regarder, de s'examiner, dans le but, bien entendu, de trouver. On recherche des choses chez nous qui doivent changer. Nous sommes familiers avec les trois domaines. Les trois domaines, il y a d'abord le monde, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début du sermon, comme le Christ a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Des tribulations, ça peut être aussi traduit par détresse. Et c'est intéressant parce que le sens de ce mot, le sens premier de ce mot, c'est d'après le lexique française, c'est une pression. Et ça décrit bien le monde dans lequel nous vivons, qui exerce une pression sur nous pour que nous nous conformions à sa façon de penser, à sa façon de faire. Et c'est une pression à nous de résister à cette pression parce que nous sommes des disciples du Christ. Jean parle du reste beaucoup du monde. Dans l'évangile de Jean, il parle beaucoup du monde. Un Jean aussi parle beaucoup du monde. Le premier épître de Jean. Nous avons besoin de l'aide de Dieu et à l'instar du Christ, nous devons vaincre le monde. Donc ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine où il faut vaincre Satan. Il faut lutter et il faut vaincre Satan. 1 Jean chapitre 2 et le verset 13. 1 Jean chapitre 2 et le verset 13. Ici, Jean parle des chrétiens qui avaient vaincu et qui avaient vaincu Satan. 1 Jean chapitre 2 verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Il est donc possible, avec l'aide de Dieu, de vaincre Satan, de résister à Satan, et comme c'est marqué, résister au diable, et il fuira loin de vous. Et puis le verset 14. Voilà, je continue de suite de verset 13. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit. Donc, il répète aussi. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Grâce à cette parole de Dieu qui demeure en nous, qui est vivante dans nos vies, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin, nous pouvons vaincre Satan avec l'aide de Dieu, quand la parole de Dieu demeure en nous. Les tentations qui peuvent nous arriver, que Satan, les démons mettent des pensées dans l'esprit, dans notre esprit, qui ne sont pas de Dieu, des pensées qui ne sont pas de Dieu. Le Christ a résisté à Satan et à la fin, vous rappelez ce que le Christ a dit à la fin de sa tentation, retire-toi, Satan. Et comme c'est marqué, alors le diable le laissa. C'est facile pour nous d'avoir des compromis mondains, de se laisser berner par le monde, de se laisser influencer par le monde, se laisser séduire par le monde. Mais il faut résister au monde, il faut résister au Satan. Et Satan nous attire comme on attire des oiseaux avec un piège. Et nous, parfois, Satan aussi veut que nos défenses spirituelles soient affaiblies. Et quand nos défenses spirituelles sont affaibli, Satan va nous attaquer. Donc la nature humaine nous tire vers le bas, nous avilit, et à nous de résister. La Pâque, ou avant la Pâque, les pains sans levain qui a à voir avec le fait d'enlever le péché. Dieu veut que nous nous examinions pour voir où nous avons besoin de changer le péché dans notre vie. Parce que le troisième domaine, justement, c'est le péché. Il faut vaincre le monde, il faut vaincre Satan, mais il faut aussi vaincre le péché qu'il y a encore dans notre vie. Et j'ai souvent cité 1 Jean chapitre 1 verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et donc, Dieu nous permet, quand nous nous examinons avant la Pâque, de voir le péché. Et aux Corinthiens, l'apôtre Paul a dit, célébrons donc la fête, mais avec les pains, puis un peu plus loin, avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Quiconque se livre, Romains 6, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Nous voyons donc au-dedans de nous cette lutte. Et, mais à nous, à nous dans notre vie, il faut faire attention, il faut lutter pour ne pas obéir à ces convoitises. Donc ça, c'est les trois domaines où il faut vaincre. Si nous concentrons maintenant uniquement sur le fait de vaincre le péché, il est utile, il est fort utile de regarder le point de vue de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que, bon, si on vainque, bon, tant mieux, si on ne vainque pas, bon, c'est dommage, mais non, il est question de notre vie éternelle. Il faut absolument que nous puissions vaincre si nous voulons que Dieu nous donne la vie éternelle. Et le point de vue de Dieu est très important pour nous. Dieu déteste le péché. C'est marqué dans Psaume 45, verset 8, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Pour nous donner une idée à quel point Dieu hait le péché, que Dieu ne tolère en aucune façon le péché, il est peut-être utile pour nous de regarder, de réfléchir sur ce qui s'est passé lorsque le Christ était sur la croix, juste à la fin de sa vie, juste avant de mourir, il a émis un cri déchirant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, le Christ était ce que Dieu, le Père, a dit à propos du Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Père s'est détourné du Christ à ce moment-là. Il s'est détourné du Christ parce que le Christ portait les péchés du monde sur ses épaules. Et Dieu le Père ne peut pas cohabiter avec le péché. En aucune manière. Il l'a abandonné à ce moment-là parce qu'il a pris sur lui tous les péchés de toute l'humanité à ce moment-là. Et donc Dieu s'est détourné. Dieu le Père s'est détourné du Christ. Et bien sûr, le Christ est décédé, le Christ et Dieu a bien sûr ressuscité le Christ. Mais c'est juste à ce moment-là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Christ, parce que Dieu le Père ne peut pas cohabiter avec le péché. Et Dieu a permis que le Christ porte le poids du péché. Donc, le péché, c'est tout ce qui est contraire à Dieu. C'est tout ce qui est contraire à qui il est. Le péché, c'est la souffrance, la destruction et inévitablement la mort. Sans parler comme quoi nos péchés, inévitablement, probablement, affectent les autres aussi. Romains chapitre 7, verset 13, je lis ceci dans le synodal, Romains chapitre 7, verset 13. Ainsi, par le moyen du commandement, le péché est apparu dans toute sa gravité. Romains chapitre 7, le verset 13, je lis ceci dans le synodal, je répète. Ainsi, par le moyen du commandement, le péché est apparu dans toute sa gravité. 7. C'est très grave. C'est très grave parce que le péché engendre la mort. Et le point de vue de Dieu, c'est que Dieu déteste. Dieu hait ce péché. Ce péché qui détruit. Et qui détruit les êtres humains et qui nous détruit quand nous ne luttons pas contre ce même péché. Le péché était là dès le début. Mais le péché ne sera plus là à la fin dans le royaume de Dieu. Enfin, si, puis il y aura dans le royaume de Dieu, enfin, le millénaire, j'entends, mais pas au-delà. Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Oui, du reste, le péché sera encore présent à la fin du millénaire, puisqu'il y a cette rébellion. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort, voilà, et par le péché, la mort, puisque c'est les conséquences des péchés, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous avons tous péché. Le monde, nous regardons autour de nous, et c'est tellement évident maintenant, le monde baigne dans le péché. Les masses dégénèrent à vue d'œil. Et nous comparons donc ce péché d'Adam. Le péché est entré dans le monde, nous voyons le péché autour de nous de plus en plus. Et nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse chapitre 21, verset 27, il n'entra chez elle rien de souillé. Parce que c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que l'on puisse être changé qu'on puisse être transformé, qu'on puisse être différent parce que nous aurons lutté justement. Et donc, Apocalypse 21, verset 27, il entra chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il entra que ceux qui sont écrits, il n'entra que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'y aura pas de péché. Et ça doit être notre but en tant que chrétien. Apocalypse 22, verset 15, dit quelque chose de similaire. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Notre but, c'est donc d'être pur, d'éliminer progressivement le péché dans notre vie. Et j'arrive enfin au titre de ce sermon, c'est le fait de vaincre, on a vu les trois domaines, et là, spécifiquement, je parle sur le fait de vaincre le péché, donc c'est ça le titre du sermon, vaincre le péché. Et de la nécessité absolue pour nous, chrétiens, de vaincre ce péché qui nous tire vers le bas. Quand nous regardons la Bible, c'est clairement exposé, dès le début, on parlait d'Adam tout à l'heure, et c'est clairement exposé dès le début que c'est quelque chose qu'il faut surmonter. Genèse chapitre 4. Il y a Adam qui a péché, Ève qui a péché, et Cain a péché aussi. Mais Dieu était là et Dieu lui a parlé. Genèse chapitre 4, verset 6. Il y avait un problème avec son offrande. Verset 5 déjà. On va commencer avec le verset 4. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, donc il a accepté son offrande et sur son offrande, mais il ne porte pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Ça peut toujours être dangereux, la colère. La colère, surtout si ce n'est pas maîtrisé. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité? Donc Dieu est intervenu, Dieu voulait l'aider, Dieu voulait l'aider à surmonter ce problème qu'il avait. Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, et ça c'est la consigne que Dieu a donnée à Caïn, c'est la consigne que Dieu donne à l'humanité, bon, l'humanité qui est pour l'instant dans son ensemble n'est pas encore appelée, mais qui en tout cas, il y a une consigne qui nous est donnée, mais toi, face à ce péché, domine sur lui. Domine sur lui. Le péché est à la porte de nos vies. Le péché désire nous dominer maintenant, régner sur nous, mais à nous de lutter pour que nous puissions régner sur le péché. Car avait besoin de se battre contre Cain. Nous avons besoin de nous battre contre nous-mêmes. De surmonter cette puissance, de dominer et de commander. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons dans Romains 6, le même, cette même consigne, que c'est quelque chose qu'il faut dominer, qu'il faut surmonter, que c'est une lutte, que c'est une bataille. Dans Romains chapitre 6, c'est le verset 1, par exemple. Romains chapitre 6, c'est le verset 1. « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous avons été baptisés, on a enterré le vieil homme, ça c'est le point de départ. Dans le verset 3, le verset 6, je ne vais pas lire tout le verset 3 et 6, mais il parle de enterrer, crucifier. Ce sont des termes assez forts qui sont employés. Mais une fois baptisé, la lutte continue. Verset 11. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, pour Jésus-Christ. C'est assez emphatique. Il y a un mot ici qui est assez emphatique dans le grec. L'Ostéval dit ceci. Vous aussi mettez-vous bien dans l'esprit. Vous aussi mettez-vous bien dans l'esprit que vous êtes mort au péché et que vous vivez à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et pour que le péché ne règne pas dans nos corps mortels, on a besoin de lutter avec l'aide de Dieu. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez point à ses convoitises, parce que nous sommes tentés par le péché, nous sommes tirés vers le bas si on ne résiste pas. Et nous avons besoin de lutter. Hébreux chapitre 12 et le verset 1. Hébreux chapitre 12 et le verset 1. Passage avec lequel nous sommes familiers et qui nous montre la réalité du péché et qui influence notre vie. Hébreux chapitre 12 et le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nouvelle de témoins, il y a le Hébreux chapitre 11 qui nous donne les héros de la foi, si je puis dire, que nous sommes environnés d'une si grande nouvelle de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, qui nous enveloppe si facilement. C'est pour ça que c'est une lutte. C'est pour ça qu'il faut lutter tous les jours dès le matin. Et courons avec persévérance, c'est aussi une clé nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 4. De nouveau la réalité de notre situation. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La Bible dit bien, l'apôtre Paul ici dit bien que c'est une lutte en luttant contre le péché. Le péché est un tyran. Le péché tient l'homme en esclavage. Et le plus que nous pratiquions le péché, le plus qu'il domine sur nous. Le plus que nous pratiquions le péché, le plus qu'il domine sur nous. C'est aussi un fardeau. C'est un fardeau qui nous afflige tous, avec des conséquences quand nous péchons. Il faut pas donc nourrir le péché, si je puis dire. Il faut pas entretenir le péché dans nos vies. Parce que, ultérieurement, il n'y aura pas un entre-deux. Il y a deux voies avec Dieu. Il y a la voie de péché et la voie vers la vie éternelle. Il n'y a pas de troisième voie. Parce que même maintenant, soit nous progressons sur le chemin qui va vers la vie éternelle, ou, au contraire, nous reculons. Il faut être conscient que c'est une lutte. Il faut avoir en tête que c'est une lutte et l'avoir en tête idéalement tous les jours de notre vie. tout péché détruit nos vies. Tout péché mène à la mort. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de petits péchés. Il y a des péchés qui ont peut-être moins de conséquences que d'autres. Mais tout péché mène à la mort. C'est bien marqué dans 1 Corinthiens, un peu de levain, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et ce qui suit après, un peu plus loin, fait disparaître le vieux levain. Dieu nous dit d'enlever tout le levain de nos demeures. Il dit bien, on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. C'est pour ça qu'il faut être diligent, que ce soit sur un plan physique ou que ce soit sur un plan spirituel. Et le physique est là aussi pour nous aider à être diligent avec le spirituel. Et nous arrivons à 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28, qui est approprié, bien sûr, en ce moment, parce que nous devons nous examiner avant la Pâque. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 28. L'écriture avec laquelle nous sommes très familiers. Verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Le fait de s'examiner ailleurs, ce mot, quand c'est marqué que chacun donc s'éprouve soi-même, ailleurs dans la Bible, c'est traduit par sonder. Et c'est intéressant parce que, ça c'est par exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, c'est marqué que c'est Dieu qui sonde nos cœurs. Et c'est le même mot. Dieu qui sonde nos cœurs. Et quand Dieu sonde nos cœurs, c'est tout sauf superficiel. Donc, il s'agit pour nous de nous sonder, de nous regarder les replis de notre cœur, les pensées intimes, les pensées secrètes que selon nous connaissons, de regarder, de voir. C'est un examen dans un but. Verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, à travers cet examen, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Nous avons besoin de distinguer, pour lutter contre le péché, puisque c'est ça le titre de sermon, c'est le fait de lutter donc contre le péché. Il faut distinguer le péché. Il faut distinguer le péché. Il faut voir le péché. J'ai dit, c'est le type du sermon. Non, c'est vaincre le péché. Il faut d'abord distinguer. Pour pouvoir vaincre le péché, c'est ça, excusez-moi, le type du sermon. Il faut vaincre le péché, la nécessité absolue. Et pour ceci, il faut distinguer le péché pour pouvoir vaincre le péché. Pour ça, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4 et le verset 12. On parlait de la parole de Dieu tout à l'heure. Ici, quelque chose d'important qui nous éclaire, qui nous permet de voir exactement comment les choses fonctionnent sur un plan spirituel. Hébreux chapitre 4 et le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, mais efficace. De pair, bien sûr, avec le Saint-Esprit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs, de mon cœur, avec la parole de Dieu, la Bible, avec l'aide avec, de paix avec le Saint-Esprit. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et Dieu, bien sûr, Dieu nous voit tel que nous sommes. À nous de commencer à nous regarder tel que nous sommes. De se juger dans un but. Et donc, il n'y a que Dieu qui peut nous révéler qui nous sommes à ses yeux. De voir la vérité en ce qui nous concerne. Et les pains sans levain, c'est la vérité, c'est la fête de la pureté et de la vérité. La vérité à propos de qui nous sommes, tel que nous sommes, les pensées profondes de notre cœur, les pensées les plus secrètes dans nos vies. Évidemment, quand nous nous regardons de cette façon-là, ça va faire mal. Ça va faire mal, mais il faut être honnête, il faut être franc, et il faut être ouvert avec Dieu. Au point d'arriver à exposer qui nous sommes à Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Vous rappelez, David voulait renouveler quand il était mis face à son péché, et qu'il a mis son péché, il voulait renouveler le contact avec Dieu. Il y a un poète écossais qui a dit, je vais vous traduire à peu près en français, dans un poème qu'il a écrit, il a écrit que est-ce qu'il peut pas y avoir un pouvoir, qui est un pouvoir qui nous donnerait le don de se voir tel que les autres nous voient. Et en réalité, pour nous, en ce qui nous concerne, c'est pas comme les autres. Bon, c'est comme les autres nous voient, c'est une chose et ça peut nous aider. Mais il faut aller encore plus loin. Comment Dieu nous voit? Comment Dieu nous voit? Est-ce que j'ai des défauts de caractère que les autres voient, mais que moi je ne vois pas? Est-ce que quelqu'un, par exemple, peut voler son patron? Peut-être les autres voient, peut-être lui, ils ne sont même pas compte qu'il est en train de voler. Mentir en s'abstenant de dire la vérité, toute la vérité. Dans la situation des gens de Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de faiblesses, il y avait péché aussi. Et par exemple, 1 Corinthiens chapitre 8, c'est marqué dans le verset 12, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 12, c'est marqué ceci, « En péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » Je répète, je ne m'y rapporte pas. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 12. « En péchant de la sorte contre les frères, en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » Et comme j'ai dit, il y avait donc péché dans l'église de Corinthe à l'époque. Mais nous avons besoin de regarder honnêtement, avec courage, ce n'est pas facile. On a besoin de l'aide de Dieu. David, quand il était confronté, comme j'ai dit tout à l'heure, à son péché, et qu'il a admis son péché, il parlait ouvertement à Dieu. Il a dit, mes transgressions, mon iniquité, mon péché. Et David disait, et donc il était conscient de cette lutte, et mon péché est constamment devant moi. Je vais revenir juste un moment sur Proverbes chapitre 28 et le verset 13. Je sais que j'ai déjà parlé de cette écriture dans le temps. Proverbes chapitre 28 et le verset 13. Parce que ici dans le Proverbe 28, 13, il y a pour ainsi dire un résumé. Tout un résumé du plan de Dieu. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est surtout la deuxième partie donc, qui nous concerne. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a trois choses qui sont mentionnées ici. Celui qui les a vus, il faut, déjà pour avouer, il faut les voir. Celui qui les a vus et les délaisse, donc on se détourne de ses péchés, quand on les voit, quand on les a vus, on se détourne, on les délaisse. Et quand nous nous délaissons, quand nous délaissons nos péchés, Dieu exerce la miséricorde à notre égard. Quand nous nous repentons, Dieu nous pardonne. Dieu exerce la miséricorde. Et justement, les gens de Corinthe, suite à ce premier épître de Paul, ont changé. Ils ont changé d'une façon assez dramatique. Et c'est ça aussi le vrai repentir, c'est quand c'est une volte-face, on va dans l'autre direction, on est vraiment différent de ce que nous étions. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 déjà. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance, un salut dont on ne se repent jamais. C'est de Dieu, c'est valable, c'est profond. Tandis que la tristesse du monde produit la mort, c'est pas le repentir selon Dieu. Verset 11. Et voici cette même tristesse selon Dieu de repentir qui vient de Dieu. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement. Il produit des fruits. Il y a un changement. Ils étaient différents. Ils étaient bien différents parce qu'ils se sont repentis. Ils ont vu, ils ont admis les problèmes et ils se sont repentis et ils ont changé. Il y a eu des fruits. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance, un salut dont on ne se repent jamais. Excusez-moi, le verset 11. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-il pas produit en vue? Quelle justification? Regardez voir tous les fruits que ça produit. Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Ils ont vraiment changé. Et le péché ne dominait plus sur eux à ce moment-là. Donc nous regardons, nous nous examinons pour pouvoir vaincre le péché, pour surmonter, et quand nous le voyons, pour revenir à Proverbe chapitre 28, nous nous repentons. Mais le repentir, il faut que c'est quelque chose, il faut que ça vienne du cœur. Le cœur, l'esprit, mais il faut que ça vienne du cœur. David, comme j'ai dit tout à l'heure, était ouvert avec Dieu. Quand nous nous repentons, nous exposons notre vie à Dieu. On est ouvert avec Dieu. Vous rappelez ce que Job a dit? Job 42, verset 6, je ne m'y rapporte pas non plus. Job 42, verset 6, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière, sur la cendre. C'est tout à fait une autre attitude de ce qu'il avait au début. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière, sur la cendre. C'est arrivé au point que nous détestons ce que nous voyons chez nous. Ah, raison, parce que c'est pas beau. Dieu nous demande, avant la Pâque, Dieu nous donne cette feuille de route avant la Pâque. Et c'est aussi un plan d'attaque pour notre vie en général, parce que nous devons progresser, nous devons vaincre le péché. Pas uniquement au moment de la Pâque, juste avant la Pâque, mais au cours de l'année. Et c'est un cheminement chrétien qui nous est donné ici. Un cheminement chrétien pour pouvoir avancer spirituellement. On nous n'a pas besoin d'attendre la Pâque. Bon, c'est intense au moment juste avant la Pâque et que Dieu nous donne ses consignes, bien sûr, qui convient de mettre en pratique. Il faut mettre en pratique. Mais il faut s'identifier. Il faut s'identifier ou admettre. Le repentir, c'est la réconciliation. Nous nous repentons et c'est la réconciliation avec Dieu. Et Dieu nous pardonne. Mais notre croissance spirituelle exige une certaine introspection pour découvrir les péchés et les fautes que nous avons besoin d'enlever de nos vies. Je répète cette phrase-là. La croissance spirituelle exige une introspection pour pouvoir découvrir les péchés et les fautes que nous avons besoin d'enlever de notre vie. Donc, nous nous sommes examinés. Nous sommes, si on veut suivre ce chemin, si je puis dire, nous nous sommes repentis, mais il faut un plan. Il faut par la suite un plan. Comment éviter de retomber dans le péché? Rappelez que Joseph, il y avait la femme de Potiphar, et Joseph a fui. Il a fui cette situation. Si quelqu'un a un problème avec la pudicité, il faut fuir certaines situations où il peut être tenté. Si quelqu'un a tendance de voler son patron, il faut prendre, il faut aller dans le sens opposé. Quelqu'un qui a tendance de dire une demi-vérité, il faut dire toute la vérité. La convoitise, la paresse, le vol, la faiblesse dans nos vies, bien sûr, peut facilement engendrer le péché. Et le fait de procrastiner, le fait de remettre à demain ou plus tard, peut facilement nous faire pécher, parce qu'on remet à demain, et demain on remet à demain, et ainsi de suite, et on ne fait pas quelque chose qu'il faudrait faire. Et on finit par pécher, parce qu'on ne le fait pas. Il faut un plan pour éviter de retomber dans le péché. Il faut réagir tout de suite. Et il faut être conscient que pour ne pas retomber dans le péché dont nous nous sommes repentis, il faut lutter. Il faut être conscient qu'il va falloir lutter jour après jour. Nous avons changé, nous avons pris une autre direction, mais notre nature humaine est toujours là et va nous tirer, si on laisse faire, va nous tirer vers le bas. C'est Paul qui a dit « Qui me délivrera ?» Et parce qu'il voyait au-dedans de lui cette lutte intense. Cette lutte où il faut persévérer jour après jour. C'est une lutte qui est journalière, une lutte qui est quotidienne. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir du zèle, c'est même une clé. Si on veut lutter, il faut lutter pour vaincre le péché. Mais une des clés importantes pour nous, c'est le fait d'avoir du zèle. Être diligent avec le fait de lutter contre le péché. Il faut lutter tous les jours. Il peut y avoir, nous sommes des êtres humains, il peut y avoir des jours où on a moins envie. Ça va certainement arriver. Mais quand ça arrive, il faut demander la motivation à Dieu pour que le lendemain, ce soit plus le même cas de figure, pour que le lendemain, nous avons envie de reprendre de reprendre la lutte, justement. Je me rappelle que même si Armstrong, quand il était très éprouvé à un moment donné, il avait des moments de découragement, mais il se repentait, il voulait par la suite aller de l'avant. 2 Pierre chapitre 3, verset 14. 2 Pierre chapitre 3, verset 14. Je vais vous lire ceci dans le crampon, la version crampon. 2 Pierre chapitre 3, verset 14. Dans cette attente, je sors ton idée d'un contexte ici. Dans cette attente, bien-aimé, faites tous vos efforts afin d'être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. C'est inévitablement une lutte pour nous de faire tous nos efforts pour être trouvé par lui sans tâche, parfait et irréprochable dans la paix. Inévitablement, c'est une lutte acharnée. Ce qui est encourageant, c'est que le plus que nous vainquons le péché, le plus que nous ressemblons à Dieu, c'est notre but. Et le plus qu'il peut nous bénir, il ne faut pas oublier que Dieu veut nous bénir. Donc le plus que nous vainquons le péché, le plus que nous ressemblons à Dieu, et le plus qu'il peut nous bénir, Et le plus, parce que ça, il y a un cheminement ici, et le plus qui peut nous utiliser, et le plus grande sera notre récompense dans le royaume. Je répète tout ceci. Nous, le plus que nous vainquons le péché, le plus que nous allons ressembler à Dieu, le plus qu'il va nous bénir, et le plus qu'il peut nous utiliser, et le plus grand sera notre récompense dans le royaume. La Bible parle d'une pleine récompense. Romains 6 parle de ces deux voies, de passer de l'un à l'autre. Romains chapitre 6, verset 16. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Il y a deux voies, il n'y a pas trois. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. On doit remplacer donc la voie du péché par la voie de la justice. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Esclaves de la justice, nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et comme c'est marqué, glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons déjà à Dieu, à nous d'être esclaves de la justice, des serviteurs de Dieu. Verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, autrefois, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est bon, très clair, cette voie-là qui mène à la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté pour fin la vie éternelle. La vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, une voie, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, cette autre voie. Deux aboutissements, deux voies. Et pour arriver à la vie éternelle, ça passe par le fait de vaincre le péché que nous allons trouver, que nous trouvons encore dans notre vie. Donc, il faut être conscient qu'il faut lutter. Il faut avoir un plan, il faut lutter et il faut même remplacer le mal par le bien. Et comme lutte, ça va nous aider à lutter justement. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Ici, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25, il y a le principe de remplacer le mal par le bien. Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. On remplace le mensonge par la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il y a certaines circonstances où il est permis de se mettre en colère, mais il faut que ce soit maîtrisé, la colère juste. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez point pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, il faut remplacer donc ce qui est mauvais par ce qui est bon. Que celui qui dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner, qu'il ait ceci en tête, pas le fait de prendre, mais le fait de donner, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29, c'est toujours ce même principe, c'est de remplacer quelque chose qui est mauvais par quelque chose qui est de Dieu, qui est bon. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est le fait de donner. Il donne des exemples spécifiques ici. Et dans tous ces exemples spécifiques, on retrouve derrière ce principe de remplacer le mal par ce qui est bon. À nous de voir pour notre, que ce soit ici dans ces quelques exemples, que ce soit autrement, à nous de voir comment remplacer ce qui est mauvais, le péché dans notre vie. Quel est le résultat? Quel est le résultat de faire ce genre d'examen pour pouvoir vaincre le péché? C'est que nous voyons, nous allons voir notre nature humaine, nos péchés plus clairement. Nous allons voir notre besoin absolu de les surmonter. Nous allons voir davantage nos fautes, nos lacunes, nos faiblesses et nos péchés. Et nous allons pouvoir identifier nos faiblesses qui nous emmènent à pécher. C'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir cet engagement à maintenir une attitude repentante jusqu'à la fin de notre vie. C'est Socrate qui disait qu'il fallait se connaître et que la vie, qu'une vie où on ne s'examine pas, ne vaut pas la peine d'être vécue. Je vous ai déjà parlé dans le temps d'Ézéchias. Je veux simplement lire, faute de temps, un ou deux versets dans la vie d'Ézéchias, ce qui s'est passé au Juda à l'époque, de deux chroniques, chapitre 29 et le verset 21. Deux chroniques, chapitre 29 et le verset 21. Ézéchias, qui était un roi juste. Et au moment de la Pâque, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Comme j'ai dit, faute de temps, je ne vais pas vous lire tout. Mais dans le chapitre 29 et le verset 11, « Maintenant, mes fils, » il parle ici aux Lévites, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. » C'est aussi une possibilité pour nous d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. Le verset 21. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire, pour Juda. Parce qu'il y avait péché. En expiation. Et puis, chapitre 30 et le verset 18. Chapitre 30 et le verset 18. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Ephraïm, de Manassé, d'Issacar et Zabulon, ne s'étaient pas purifiés. Ils mangeaient la Pâque sans se conformer à ce qui était écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant, « Veille l'Éternel qui est bon. » Pardonner à tous ceux qui ont appliqué le cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur Père. Il a demandé à ce que Dieu pardonne ceux qui cherchaient Dieu. Et Dieu va nous pardonner quand nous le cherchons avec notre cœur. Il faut, c'est ce que Dieu demande. Dieu demande à ce que nous nous examinons avant la Pâque. Donc, il faut s'examiner sérieusement, consciencieusement, pour que le péché ne domine pas sur nous. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché et que nous devenions serviteurs de Dieu. que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il nous faut vaincre ce péché qui gouverne encore nos vies pour pouvoir prendre la Pâque d'une manière digne.